Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers confrères, mes bien chers frères, en ce jeudi saint, fête de l'institution du sacerdoce, je m'adresserai particulièrement à vous, mes chers confrères dans le sacerdoce, et à vous, chers séminaristes qui montez vers le sacerdoce. Et je vous inviterai à méditer particulièrement sur trois dispositions fondamentales dont nous avons besoin, particulièrement en cette époque de l'histoire de l'Église, dont nous sommes les serviteurs. Première disposition, c'est la foi. Deuxième disposition, la piété. Troisième disposition, l'esprit de sacrifice. La foi. Eh bien, chers amis, vous qui êtes prêtres, qui chaque jour offrez le saint sacrifice de la messe, toute votre vie est fondée et basée sur la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment le fondement de notre sanctification, de notre sainteté. Point de sainteté sans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sine fide impossibile est placere Deo. Or, s'il est une valeur, s'il est une quelque chose qui aujourd'hui est mis en cause et combattu, c'est bien la foi. Et c'est avec douleur que nous constatons que le gouvernement de l'Église qui a été fondé, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, précisément pour répandre la foi, pour la diffuser, pour la défendre, il suffit d'énumérer, je dirais, les différents dicastères qui ont été fondés à Rome, c'est-à-dire les différents ministères du souverain pontife, pour s'apercevoir que c'est bien le rôle du gouvernement de l'Église de propager la foi par la continuité de l'apostolicité de l'Église, par la congrégation des évêques, la congrégation du clergé. Et puis, la propagande. Propagande, propagation de la foi. Et le Saint-Office. Office de l'Inquisition pour la défense de la foi. Et on pourrait ainsi énumérer tous les dicastères de Rome, mais l'on s'apercevrait que tout est orienté vers la propagation de la foi, vers la diffusion de la foi et la défense de la foi. Or, nous sommes bien obligés aujourd'hui de constater que ceux qui précisément ont la charge de répandre la foi et de la défendre s'acharne au contraire à la détruire. Nous sommes bien obligés de le constater, et ce n'est pas sans motif que des congrégations romaines comme celle de la propagation de la foi et celle du Saint-Office ont été en quelque sorte réduites à néant par d'autres organismes qui les remplacent. On a voulu introduire dans le gouvernement de l'Église des organismes qui ne professent plus la foi catholique. C'est là un grand dommage pour l'Église. Et nous sommes bien obligés de constater que cette situation qui se trouve à Rome a des conséquences dans le monde entier. Et que les évêques, désormais, et beaucoup de prêtres n'ont plus la foi catholique. Les exemples sont innombrables. Et tous les jours, nous apprenons des choses toujours de plus en plus stupéfiantes, surtout en ce qui concerne l'œcuménisme. Alors nous nous reportons à l'Évangile. Nous nous reportons à Saint Jean. À Saint Jean dans ses lettres, dans lesquelles il est formel. Nous ne devons pas avoir de contact avec l'infidèle. Nous devons nous séparer des infidèles. Et en nous disant cela, ils nous apprennent qu'il n'y a, comme il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'une seule foi et un seul Dieu. C'est saint Paul qui le dit. Que l'on lise les épîtres de saint Paul, en particulier les deux épîtres aux Corinthiens et l'épître aux Hébreux, et l'on trouvera avec quelle force, avec quelle énergie, avec quel commandement saint Paul insiste auprès des Corinthiens, auprès de ses fidèles, pour leur dire pas de mélange avec les infidèles. Il n'est pas question de ceux qui communient plus ou moins pleinement à notre foi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de communion moins pleine, plus pleine, plénière, très pleine. Ça n'existe pas. Il y a la foi et il y a l'infidélité. Il y a un fossé entre les deux. Et ceux qui n'ont pas la foi adorent des idoles. Parce que n'ayant plus notre Seigneur Jésus-Christ vraiment comme Dieu, ils n'ont plus le Père non plus. Celui qui n'a pas le Fils, dit saint Jean, n'a pas le Père. Et il n'y a qu'un seul Dieu, comme nous n'avons qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, par qui nous sommes, dit saint Paul, et pour qui nous sommes. Et si l'on se sépare de ce Seigneur, on se sépare de Dieu. Et si on se sépare de Dieu, on n'adore plus Dieu. On adore des idoles, c'est-à-dire des constructions de notre esprit, des dieux imaginaires qui sont des idoles, qui sont des démons. C'est ce que dit explicitement l'Évangile, explicitement saint Paul. Eux au moins étaient clairs, net dans leurs affirmations, il n'y a pas d'hésitation possible. Il n'y a pas d'église divisée, ça n'existe pas une église divisée. L'église ne serait plus si elle était divisée. Il n'y a pas une partie de l'église chez les protestants, une partie de l'église chez les catholiques. Il y a l'église catholique unique, seule, véritable église, véritable temple de Dieu. Et comme le dit saint Paul, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Or, vous le savez bien, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui, couramment, à Rome, dans les églises, partout, dans les évêchés. Il semble que l'unité de l'Église n'existe plus, que l'Église soit divisée. Et c'est pour cela qu'on a fait ce secrétariat de l'unité des chrétiens à Rome, pour retrouver l'unité de l'Église perdue. Elle n'a jamais été perdue, elle n'existerait plus, l'Église ne serait plus divine, s'il n'y avait plus l'unité de l'Église. Alors c'est au service de cette unité de l'Église, au service de cette foi unique, de ce Dieu unique, que nous avons été consacrés dans notre sacerdoce. Et nous devons à tout prix défendre cette vérité fondamentale de notre foi et prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà toute notre prédication. Voilà tout l'objet de notre foi. Demeurons fidèles à cette foi. Et si nous voulons être fidèles à cette foi, quelle est en nous les effets qu'elle doit produire dans nos âmes, la piété? En quoi consiste en définitive la piété? La piété, c'est le don qui perfectionne la vertu de justice. Et dans la vertu de justice, elle y concerne particulièrement la piété, la vertu annexe de la vertu de justice, c'est la religion. Alors la piété est très connexe avec la vertu de religion. Ayons de la religion. Eh bien, chers confrères, aimons à relire avec attention, avec méditation, les magnifiques chapitres de saint Thomas d'Aquin sur la vertu de religion. Vous aussi, chers séminaristes, qui élevez dans un climat difficile aujourd'hui dans vos familles, dans les milieux dans lesquels vous avez été élevés, dans lesquels vous avez cru. Votre piété facilement chancelante, hésitante, incertaine, beaucoup d'hésitation. Non, ne soyez pas des hésitants. Lisez, relisez ce que nous devons être par rapport à Dieu. La religion éclairée par la foi nous décrit les bases fondamentales de ce que nous devons être. La dévotion, l'adoration, la prière, le sacrifice, voilà les bases de notre vertu, de la vertu de religion, qui nous mettent dans une dépendance totale de Dieu, dans une révérence profonde, complète de nous-mêmes, qui ne bouge jamais, qui ne change jamais. Vous êtes toujours des créatures, nous sommes toujours des créatures, nous sommes toujours des rachetés, nous sommes toujours des baptisés. Par conséquent, il y a dans nos âmes des relations fondamentales avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne doivent jamais changer, sur lesquelles nous ne devons jamais hésiter. Si au cours de notre vie spirituelle, il y a quelques hésitations, quelques difficultés, quelques épreuves, mais cela c'est naturel. Le bon Dieu le veut pour notre sanctification. Mais jamais, 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 nous ne devrions mettre en doute ou en cause les principes fondamentaux de notre piété, de notre sainte religion, de notre dévotion à Dieu. Jamais. Alors soyez là aussi fidèles à cette piété, à cet amour de Dieu. Car une foi qui n'aimerait pas, une foi qui n'aboutirait pas à l'amour, à la charité, ne serait une foi morte. Et si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, nous aimons l'amour. L'amour fait homme et qui est mort sur la croix pour l'amour de son Père et pour l'amour des âmes. Et puis enfin l'esprit de sacrifice. Je dirais volontiers, plutôt que l'esprit de sacrifice, l'esprit de croisade. Le croisé est un homme sacrifié. Celui qui est au combat abandonne les impedimenta, tout ce qui peut le gêner pour son combat. Souvenez-vous du combat de David et de Goliath. On avait essayé de mettre sur le dos de David une armure pesante et lourde pour essayer de le protéger contre les coups de Goliath. Mais David a dit, avec cette armure, je ne puis rien faire. Je suis paralysé. Enlevez-moi donc cette armure, je prends ma fronde et je vais au combat. Avec la grâce de Dieu, je battrai, j'aurai la victoire. Eh bien, c'est cela aussi, les dispositions que nous devons avoir dans cette croisade effrayante. Jamais croisade au cours de l'histoire n'a été une croisade comme celle d'aujourd'hui. Tout se ligue contre la foi. Tout se ligue contre l'Église. Ennemi de l'extérieur, ennemi de l'intérieur, partout. Nous avons affaire à des combats comme jamais dans l'histoire de l'Église il n'y en a eu. Alors nous devons être des croisés. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus être des prêtres à demi. Nous ne pouvons pas avoir une vocation hésitante et chancelante pour mener ce combat, pour mener cette croisade. Il faut des hommes convaincus, des hommes qui ont la foi seulement, qui ont la foi, qui ont la charité, qui ont des convictions profondes et qui s'apprêtent par conséquent à combattre et à donner tout pour avoir la victoire, pour la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour concourir à la victoire et au règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dirais que c'est une grâce pour vous, mes chers séminaristes. Vous vivez à une époque où il faut être des héros, ou rien. Vous avez le choix. Ou abandonner le combat, ou combattre comme des héros. Il vous faut donc les vertus de ces héros. On ne peut pas tergiverser. Sinon, vous serez abattu dans les premiers combats. Vous ne résisterez pas aux multiples attaques du démon. Voyez, même à l'intérieur de la fraternité, comme le démon essaye par tous les moyens de nous diviser, nous corrompre, de diminuer nos forces, par tous les moyens. Très habilement, il arrive à faire constamment des oppositions, des divisions, pour essayer d'affaiblir nos forces, affaiblir notre combat, pour nous désunir et ainsi gagner la victoire. S'il est vrai que, comme le dit saint Paul, aux Galates, si je ne me trompe, saint Paul annonce l'apostasie générale avant l'arrivée de l'Antéchrist. S'il est vrai que cette apostasie générale doit venir, évidemment, le démon semblera triompher. Pendant combien de temps, nous n'en savons rien. Mais il aura un semblant de victoire pendant quelque temps, en attendant que l'Antéchrist vienne et se fasse adorer Dieu dans le temple de Dieu lui-même. Faire adorer comme Dieu. Mais l'Église a les promesses de la pérennité et par conséquent, elle ne peut pas disparaître. Alors, nous avons été appelés par Dieu pour maintenir la foi catholique et pour combattre ce combat extraordinaire. Prions Dieu. Bien, chers confrères, bien, chers amis, prions Dieu d'être vraiment dignes, d'être appelés par lui pour cette croisade extraordinaire. et promettons-lui notre fidélité inconditionnelle, fidélité à la foi. Bien sûr que le gouvernement de l'Église a été fondé également pour la défense de la foi, et que normalement, nous devrions être fidèles au gouvernement de l'Église pour aider ce gouvernement de l'Église à propager la foi et à continuer la foi catholique. Mais si ce gouvernement faillit à son devoir, si ce gouvernement abandonne sa fonction et se retourne contre la foi, qu'est-ce que nous devons faire ? Demeurer attaché au gouvernement ou demeurer attaché à la foi ? Nous avons le choix. Est-ce la foi qui prime ou est-ce le gouvernement qui prime ? Il n'y a pas nous sommes devant un dilemme et nous sommes bien obligés de faire un choix. Or, le gouvernement a été fait pour la foi et non pas la foi pour le gouvernement. Parce que la foi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Alors nous devons être attachés à Jésus-Christ avant d'être attachés au gouvernement même de l'Église, fondé par Jésus-Christ, sans doute, mais pas fondé pour être son ennemi, pas pour le détruire, pas pour entraîner les âmes vers les idoles, vers les faux dieux, vers les démons. Alors soyons ferme dans cette foi et demandons à la Vierge Marie, la Reine des Victoires, Notre-Dame des Victoires, de nous donner la force dans le combat, de nous aider à remporter la victoire contre cet assaut de l'enfer, contre notre Seigneur Jésus-Christ, notre doux Sauveur. Nous allons méditer ces jours-ci la passion, les douleurs, les souffrances, l'abandon par ses apôtres. Mais nous suivrons et nous nous efforcerons de toute notre âme de suivre la Vierge Marie, Saint Jean, les saintes femmes, et de ne pas suivre les apôtres dans leur abandon de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'être vraiment des fils de Dieu, de Jésus et de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, permettez-moi, avant d'évoquer quelques considérations sur cette belle fête de Pâques, sur les sentiments qui doivent nous animer en ce beau jour, de compléter pour vous surtout, mes chers séminaristes, qui allez dans quelques instants prendre le chemin des vacances, vous allez rencontrer vos parents, vos amis, et je ne voudrais pas que ce que je vous ai dit jeudi dernier à l'occasion de la messe chrismale soit mal interprété par vous. Nous le savons tous, mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous savons tous que nous sommes actuellement devant une situation dans l'Église qui est de plus en plus inquiétante. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que le problème se pose. Le problème se pose depuis le Concile, particulièrement, et depuis l'application des réformes du Concile. Or, nous assistons à une espèce d'escalade de l'œcuménisme pratiqué par le pape et les évêques. Ce n'est pas un mystère. C'est vu et su par tout le monde, c'est présenté à la télévision, tous les moyens de communication sociale, tout le monde est bien au courant de cet œcuménisme qui est pratiqué aujourd'hui par les autorités de l'Église. Alors cet œcuménisme nous pose à vous, j'en suis certain, chers fidèles, chers amis, un grave problème de conscience. Pour nous, nous voulons et nous avons décidé, et je ne pense pas que nous ayons l'intention de changer, nous voulons demeurer catholiques. Et le catholicisme, pour nous, signifie garder la foi, les sacrements, le saint sacrifice de la messe, le catéchisme, que l'Église a enseigné, a légué comme un héritage précieux pendant 19 siècles, des générations catholiques. Nous-mêmes, nous avons reçu dans notre enfance, dans notre jeunesse, dans notre adolescence, dans notre âge mûr, nous avons reçu ce précieux héritage et nous y sommes attachés comme à la prunelle de nos yeux en pensant que cette foi qui nous a été léguée et tous les moyens de garder la foi qui nous ont été légués, d'entretenir la grâce en nous, sont un moyen nécessaire, absolument indispensable pour sauver nos âmes, pour aller au ciel. Ce n'est pas pour autre chose que nous voulons demeurer catholiques, pour sauver nos âmes. Alors, lorsque j'avais l'occasion de vous dire jeudi dernier, mes chers amis, que nous avons l'impression de nous éloigner toujours davantage de ceux qui pratiquent cet œcuménisme insensé, contraire à la foi catholique. Je devrais dire plutôt que, demeurant catholique, et décidant de demeurer catholique jusqu'à la fin de nos jours, ce sont eux que nous voyons s'éloigner de nous parce que nous demeurons catholiques, et qu'ils s'éloignent toujours un peu plus de la profession de cette foi catholique qui est le premier précepte, qui est celui d'un baptisé, de professer sa foi. Ce n'est pas pour rien que les parrains, nos parrains et marraines ont prononcé le credo le jour de notre baptême et que nous-mêmes, ensuite, à la confirmation que nous avons reçue, nous avons répété par nous-mêmes ce credo qui nous attache définitivement à la foi catholique. Or, c'est un fait certain, connu désormais de tout le monde, depuis surtout le voyage du pape au Maroc, au Togo, dans les Indes, et dans les communiqués que le Saint-Siège officiellement a fait paraître encore ces derniers jours pour dire que le pape avait l'intention de se rendre chez les Juifs pour prier avec eux, que le pape avait l'intention de se rendre à Thésée pour prier avec les protestants, et qu'il avait l'intention, il l'a dit lui-même publiquement à Saint-Paul-hors-les-Murs, de faire une cérémonie qui réunirait toutes les religions du monde pour prier avec elles à Assise pour la paix. Que pensons-nous? Quelle est la réaction de notre foi catholique? C'est cela qui compte. Ce n'est pas notre sentiment personnel, une espèce d'impression ou une constatation quelconque. Il s'agit de savoir ce qu'en pense l'Église catholique, ce qu'on nous a enseigné, ce que notre foi nous dit devant ces faits. Pourquoi je me permets de vous lire quelques mots très courts que j'ai recueillis dans le dictionnaire de droit canonique de l'abbé Chanoine Naz, qui est officiellement le commentaire du droit canon, qui est la loi de l'Église depuis les premiers temps de l'Église. Le droit canon édité et publié sur l'ordre du Saint-Pape Pie X et publié par Benoît XV, et le droit canon est l'expression de la loi de l'Église qui a été la sienne pendant 19 siècles. Et que disent-ils? à propos de ce qu'on appelle la communicatio in sacris, c'est-à-dire participation à un culte acatholique, participation d'un culte chez les non-catholiques. Je crois que c'est bien ce qui nous occupe. C'est bien ce que nous voyons. La participation du pape et des évêques à des cultes non-catholiques. Qu'est-ce qu'en dit l'Église? La communication in sacris, comme le dit l'Église en latin, elle est interdite avec les non-catholiques par le canon 1258, paragraphe 1, qui dit « Il est absolument interdit aux fidèles d'assister ou de prendre part activement au culte des acatholiques, des non-catholiques, de quelque manière que ce soit. » De quelque manière que ce soit. Et voici comment il explique. Et cela, je ne fais que copier ce qui se trouve dans ce commentaire officiel de la doctrine de l'Église. La participation active et formelle est active et formelle quand un catholique participe à un culte hétérodoxe, c'est-à-dire non catholique, avec l'intention d'honorer Dieu par ce moyen, à la manière des non catholiques. Je répète, la participation est active et formelle quand un catholique participe à un culte non-catholique avec l'intention d'honorer Dieu par ce moyen à la manière des non-catholiques. C'est exactement ce devant lequel nous nous trouvons. Je pense réellement que les évêques et que le pape a l'intention d'honorer Dieu par le culte non-catholique auquel il participe. Je ne pense pas me tromper. Une telle participation est interdite sous n'importe quelle forme, quovis modo, parce qu'elle implique profession d'une fausse religion et par conséquent reniement de la foi catholique. Il n'est permis ni de prier, ni de chanter, ni de jouer de l'orgue dans un temple hérétique ou schismatique, en s'associant aux fidèles qui célèbrent leur culte, même si les termes du chant et des prières sont orthodoxes. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit en toutes lettres dans le dictionnaire de droit canonique par le chanoine Ignace, qui fait pièce officielle dans l'Église, qui a toujours été considérée dans l'Église comme un commentaire tout à fait officiel et valable. Ceux qui participent ainsi activement et formellement au culte des non-catholiques sont présumés adhérer aux croyances de ces derniers. C'est pourquoi le canon 2316 les déclare suspects d'hérésie et s'ils persévèrent, ils sont considérés comme réellement hérétiques. Pas moi qui le dis. Encore une fois, pourquoi cette législation de l'Église ? Pour nous aider à pratiquer le premier commandement que nous avons de professer notre foi catholique. Si nous professons notre foi catholique, il nous est impossible, inconcevable de professer une autre foi, un autre culte. Parce que en priant dans un autre culte, nous faisons profession d'honorer le Dieu qui est invoqué par ce culte, par le culte d'une fausse religion. Une fausse religion, c'est honorer un faux Dieu, un Dieu qui est une construction de l'esprit, ou qui est une idole quelconque, mais qui n'est pas le vrai Dieu. Comment voulez-vous que les Juifs prient le vrai Dieu ? Ils sont formellement, essentiellement, contre notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis, précisément, le jour de la résurrection de notre Seigneur. Et même avant, puisqu'ils l'ont crucifié, mais d'une manière quasi officielle,
après la résurrection de notre Seigneur. Et ils se sont mis immédiatement à persécuter les disciples de notre Seigneur. Et cela pendant des siècles. Comment peut-on prier le vrai Dieu avec les Juifs? Qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Le Verbe de Dieu. Il est Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'un seul Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les évangélistes qui nous rappellent ça à satiété. Si donc on s'oppose à notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit explicitement saint Jean dans ses lettres, qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. C'est normal. Il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Si une des personnes est déshonorée et refusée, on ne peut pas honorer les autres personnes. C'est impossible. C'est détruire la Sainte Trinité. Par conséquent, en déshonorant notre Seigneur Jésus-Christ, les Juifs déshonorent la Sainte Trinité. Comment peuvent-ils prier le vrai Dieu? Il n'y a pas d'autre Dieu au ciel que nous connaissions, qui nous était enseigné par notre foi catholique. Voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons. Je ne l'invente pas. Ce n'est pas moi qui la veux. Je voudrais mourir pour qu'elle n'existe pas, cette situation. Je voudrais donner ma vie. Mais nous nous trouvons devant cette situation. Comment la juger? Suivant notre foi, suivant la doctrine de l'Église. Nous nous trouvons vraiment devant un dilemme grave, excessivement grave, qui, je crois, n'a jamais existé dans l'Église, que celui qui est assis sur le siège de Pierre participe à des cultes de faux dieux. Je ne pense pas que ce soit jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. Quelle conclusion devrons-nous tirer, peut-être dans quelques mois, devant ces actes répétés de communication à des faux cultes? Je ne sais pas. Je me le demande. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Car il semble, à première vue, je ne veux pas encore, je dirais, le dire d'une manière solennelle et formelle, mais il semble à première vue qu'il soit impossible qu'un pape soit hérétique publiquement et formellement. Notre Seigneur lui a promis d'être avec lui, de garder sa foi, de le garder dans la foi. Comment celui auquel notre Seigneur a promis de le garder dans la foi définitivement et sans qu'il puisse errer dans la foi, peut-il en même temps être hérétique publiquement et quasi apostasié? Voilà un problème qui vous concerne tous, qui ne concerne pas moi seulement. Si on nous a persécutés, si nous maintenant, on nous traite comme des gens qui sont presque hors de l'Église, pourquoi? Parce que nous sommes restés catholiques. Parce que nous avons voulu rester catholiques. Et alors, nous constatons que, demeurant catholiques, ces personnes s'éloignent toujours davantage de la doctrine catholique, et par conséquent s'éloignent de nous. Que voulez-vous qu'on y fasse? Absolument, comme les Juifs se sont éloignés de notre Seigneur, ils sont éloignés de lui toujours davantage, jusqu'à devenir des ennemis jurés de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils auraient dû tous se réunir à notre Seigneur, alors qu'ils auraient dû tous suivre la très sainte Vierge Marie, et les apôtres, et avec exception faite de Judas, bien sûr, mais tous les disciples de notre Seigneur, juifs, qui se sont convertis à notre Seigneur et qui ont suivi notre Seigneur. Notre religion chrétienne a commencé avec des juifs convertis. Pourquoi y en a-t-il un certain nombre qui ont refusé de se convertir malgré toute l'évidence les miracles de notre Seigneur, l'évidence de sa résurrection. Puisque les soldats qui étaient présents sont courus, effrayés, après l'apparition de l'ange et le tremblement de terre qui a eu lieu, effrayés, ils sont partis vers les princes des prêtres pour dire ce qui était arrivé, c'est-à-dire que notre Seigneur n'était plus là, qu'il était ressuscité, qu'il n'y avait plus rien dans le tombeau, et qu'ils avaient entendu un tremblement de terre effrayant. Et ils venaient apporter leur constatation, leur témoignage. Qu'ont dit les princes des prêtres, au lieu de dire, « Oh, alors vraiment, nous faisons amende honorable, nous nous sommes trompés, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité, comment ne pas l'adorer, comment ne pas le suivre ?» Non. Qu'ont-ils dit aux soldats, « Voilà une forte somme d'argent, et allez dire dans tout Jérusalem que pendant que vous dormiez, les apôtres sont venus prendre le corps de notre Seigneur. » Alors, comme le dit très bien saint Augustin, en souriant, je pense, il dit, « Mais comment ont-ils pu dire que les apôtres ont enlevé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment l'ont-ils vu puisqu'ils dormaient ?» Ils n'ont pas pu voir que les apôtres... Ils disent même que pendant qu'ils dormaient, les apôtres sont venus enlever le corps de notre Seigneur. Donc, ils ne l'ont pas vu. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est le démon qui les a inspirés, ils sont restés sous l'influence du démon. Que faire, mes bien chers frères, mes bien chers amis, prier devant cette situation de l'Église? Nous devrions prier matin et soir, jour et nuit, prier la très sainte Vierge Marie de venir au secours de son Église. Car c'est un scandale considérable. Au vrai terme du scandale. Scandale, c'est pousser au péché. Eh bien, par ce scandale de l'œcuménisme, par ce scandale de la participation au culte des fausses religions, les chrétiens perdent la foi. Les catholiques perdent la foi. Ils n'ont plus la foi dans l'Église catholique. Ils ne croient plus qu'il y a une seule religion vraie, qu'il n'y a qu'un Dieu, la Trinité Sainte et notre Seigneur Jésus-Christ. La foi se disparaît. Quand l'exemple et le scandale viennent de si haut, de celui qui est sur le siège de Pierre et de presque tous les évêques, alors, pauvres chrétiens qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas suffisamment de formation chrétienne pour maintenir leur foi catholique malgré tout, ou qui n'ont pas à côté d'eux des prêtres qui les aident à garder cette foi, ils sont complètement désemparés, ou ils perdent la foi, ne pratiquent plus, ne prient plus, ou ils s'engagent dans des sectes quelconques. Alors nous devons beaucoup prier, réfléchir, demander au bon Dieu de nous garder dans la foi catholique, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ces événements ne dépendent pas de nous, encore une fois. C'est comme un film de cinéma qui se déroule devant nos yeux. Depuis le Concile, nous voyons la situation s'aggraver d'année en année, toujours plus grave. Le synode a encore marqué un point d'orgue, je dirais, plus grave que les autres, parce qu'ils ont dit, nous continuons. Malgré toutes les difficultés que peut y avoir, le Concile a été une œuvre du Saint-Esprit, a été une Pentecôte extraordinaire. Il faut continuer, continuons dans l'esprit du Concile. Pas de restrictions, pas de réprimandes, pas de retour à la tradition. Et nous voyons maintenant que le fait que le synode ait dit il faut continuer dans l'esprit du Concile, eh bien nous voyons les étapes maintenant se précipiter, aller encore plus vite, forcément, puisqu'il n'y a pas eu d'objection à ces 20 années d'esprit du Concile mis en pratique. Maintenant, désormais, tous ceux qui sont d'accord avec ces transformations dans l'Église disent mais il n'y a plus de raison de ne pas continuer, et plus rapidement encore, on en arrive à la destruction totale de l'Église. Mais je ne voudrais pas ne pas évoquer cependant quelques considérations sur la belle fête de Pâques que nous avons et qui justement encourage notre foi, parce que voyez-vous, l'Église catholique est la seule, en définitive, qui nous parle de l'au-delà d'une manière certaine. Oh, comme nous devons remercier le bon Dieu d'avoir la foi catholique. Pauvres âmes qui n'ont pas la foi et qui errent, je dirais, dans l'aveuglement, qui ne pensent qu'aux choses d'ici-bas et qui, lorsqu'elles pensent ou qu'elles ont l'occasion de penser aux choses de l'avenir, ce qu'il en sera après la mort, préfèrent plutôt fermer les yeux, fermer les oreilles, ne pas évoquer ces choses-là pour ne pas avoir à y penser. Pauvres gens qui, dans leur aveuglement et dans leur attachement aux choses de ce monde, ferment les yeux sur les choses les plus belles qui nous attendent là-haut. Aujourd'hui, nos offices, n'est-ce pas, notre Seigneur a ouvert la porte du ciel. Mais regardons donc vers le ciel. Il nous ouvre la porte du ciel, pourquoi? Mais pour nous y amener tous, bien sûr. Pour que tous les hommes le suivent, lui. Puisqu'il a ouvert cette porte et qu'il est lui-même la porte. Ego sum hostium, je suis la porte du ciel. Mais regardons Jésus-Christ, regardons sa résurrection, regardons toutes les âmes saintes qui l'entourent. Regardons tous ces justes de l'Ancien Testament qui vont bientôt monter avec lui au ciel et former déjà les élus, le corps des élus au ciel. Alors que nous enseigne l'Église sur cet au-delà qui nous attend tous? Cette vie est courte et brève. L'Église nous dit qu'il y a quatre possibilités pour les âmes. Quatre lieux dans lesquels elles peuvent être placées, dont trois définitifs et un provisoire. Les lieux définitifs sont le ciel, les limbes et l'enfer. Le lieu provisoire, c'est le purgatoire. Voilà ce que nous enseigne l'Église. Il n'y a pas d'autre lieu. Ou c'est le bonheur éternel, immédiatement acquis, ou c'est le bonheur éternel acquis par l'intermédiaire d'un séjour plus ou moins prolongé au purgatoire pour purifier nos âmes de nos péchés véniels, des peines dues aux péchés que nous avons commis. Ou ce sont les limbes pour les âmes de ceux qui n'ont pas péché personnellement et qui sont morts avec le péché originel, comme tous ces enfants qui meurent, hélas, quand on pense à tous ces avortements, tous ces enfants sont privés de la grâce sanctifiante, privés du bonheur éternel, du ciel. Ils ne sont pas malheureux, mais ils sont tout de même dans cette privation invraisemblable d'un bonheur ineffable, dont nous n'avons aucune idée ici-bas. Cela, ce sont les limbes. Et puis enfin l'enfer. Et saint Thomas donne une comparaison très moderne, je dirais, parce qu'il dit nos âmes, lorsqu'elles quitteront nos corps, ici-bas, iront chacune à leur place, comme les astres qui ont été projetés dans le ciel par le bon Dieu. Chacun a pris sa place suivant sa gravité, suivant les lois de la gravitation, suivant son importance, il a pris sa place. Comme nous dirions aujourd'hui pour les satellites, nous lançons des satellites qui, suivant leur poids, suivant leur grandeur, suivant leur vitesse, prennent leur place sur orbite et tournent autour de la Terre. Et bien les âmes, aussi, d'une certaine manière, prendront chacune leur place. Par rapport à quoi ? Par rapport à leur relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous vraiment des fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ? L'aimons-nous de tout notre cœur? Mourons-nous dans cet amour en disant « J'offre ma vie tout entière, j'offre tout, j'offre mes souffrances, j'offre ma mort pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour être uni à notre Seigneur Jésus-Christ, pour réparer mes fautes, par amour pour notre Seigneur. » Alors, si vraiment nous faisons un acte de charité parfaite avant de mourir, nos âmes, tout naturellement, partiront dans le ciel et se placeront dans le ciel suivant notre degré de charité, plus ou moins près de notre Seigneur. Automatiquement, le bon Dieu n'aura même pas à nous juger. C'est nous-mêmes qui nous jugeons par la charité que nous avons pour le bon Dieu et pour notre Seigneur. Et nous aurons le bonheur éternel. Si au contraire, nous avons des peines à expier, ce sera le purgatoire. Et dans le purgatoire, nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. N'oublions pas ça, mes bien chers frères. N'oublions pas que dans le purgatoire, les âmes du purgatoire ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Elles ne peuvent pas mériter. Elles sont fixées dans ce qu'elles sont, simplement qu'elles ont un temps de peine à expier. Mais ce temps peut être abrégé par nous, par les fidèles qui sont encore sur la terre. Nous pouvons prier, justement, il faut prier pour les âmes du purgatoire. C'est une grande raison de prier pour les âmes du purgatoire. Parce que nous, nous pouvons mériter pour elles, par nos prières, par nos sacrifices, en offrant sacrifices pour les âmes du purgatoire, pour les âmes de nos parents, de nos amis, de tous ceux qui souffrent au purgatoire. Nous pouvons soulager leur peine. Elles ne peuvent plus pour elles-mêmes. Elles attendent. Elles attendent la fin de cette purification, de ce purgatoire, et elles souhaitent que ceux qui sont sur la terre, leurs amis, leurs parents, prient pour elles afin de les délivrer le plus vite possible de ces peines et qu'elles aillent rejoindre les élus dans le ciel. Par contre, inutile de prier pour les élus du ciel, inutile de prier pour ceux qui sont dans les limbes, inutile de prier pour ceux qui sont en enfer. Parce que dans ces trois lieux, l'état est définitif. Définitif. Mais comme nous ne le savons pas, nous ne savons pas parmi nos parents, nos amis, ceux qui meurent, nous ne savons pas, sont-ils au ciel, sont-ils au purgatoire, et là, sont-ils en enfer, nous ne savons pas. Alors, nous devons prier pour eux, et le bon Dieu se sert de ses prières pour ceux qui peuvent recevoir les mérites de ses prières. Si les personnes pour lesquelles nous prions ne peuvent plus, sont plus susceptibles de changer d'état ou de modifier leur état. Par contre, ceux qui sont au ciel peuvent prier pour nous. Et c'est pourquoi nous devons souvent invoquer les saints du ciel, invoquer particulièrement, bien sûr, notre Seigneur, la très sainte Vierge Marie, les saints les plus puissants, ceux pour lesquels nous avons une dévotion particulière, notre saint patron, notre sainte patronne, pour demander de nous venir à notre secours. Eux peuvent intercéder auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, pour nos âmes, afin que nous progressions dans la perfection, afin que nous nous préparions à ce moment si important, le moment le plus important de notre vie, qui est notre mort, pour que nous soyons prêts à aller les rejoindre là-haut, dans l'éternité. Voilà ce que nous enseigne la Sainte Église, voyez-vous. Au moins, ce sont des choses claires, simples, naturelles, bonnes pour nous, qui nous encouragent à marcher dans le chemin de la perfection. Et c'est pourquoi il est si profitable. Et je félicite tous ceux qui, ici, ont déjà fréquenté les exercices spirituels, ont déjà fait des retraites, pour méditer sur nos fins dernières, pour méditer sur ces magnifiques horizons que le bon Dieu nous présente à l'occasion de sa résurrection. Tout ce que nous connaissons ici-bas n'est rien en comparaison de ce que nous connaîtrons si le bon Dieu nous accueille dans son paradis. C'est saint Paul qui le dit, il n'y a qu'une proportion entre ce que nous sommes ici et ce qu'il y a dans le ciel. Alors méditons ces choses et efforçons-nous de pouvoir être accueillis, je dirais, par les anges comme les saintes femmes ont été accueillies. Voyez-vous la différence qu'il y a eu entre les gardiens du tombeau de notre Seigneur et les saintes femmes qui sont venues pour voir notre Seigneur. Les saints anges eux-mêmes leur ont dit, vous approchez, vous, parce que nous savons que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Nous le savons, alors venez voir là où il a été posé. Les femmes étaient effrayées, le tremblement de terre l'ange qui descend du ciel, resplendissant de lumière et de splendeur, sont épouvantés. Ils se seraient bien enfuis aussi, comme les gardiens qui, eux, se sont enfuis, ont pris la fuite. Mais elles, les anges ont dit, non, 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 nous savons que vous, vous cherchez notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous aussi nous dire, nous savons que vous avez recherché notre Seigneur Jésus-Christ, que nos saints anges, nos saints anges gardiens nous disent ça lorsque nous arriverons à notre dernier moment, lorsque le bon Dieu nous appellera. Puissions-nous être reçus comme ça par les anges, et non pas nous enfuir, et aller avec ceux qui sont avec le prince du mensonge, comme l'ont fait ces pauvres soldats en allant trouver les princes des prêtres. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous guider au cours de notre vie pour que un jour nous puissions aller partager son bonheur dans le ciel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères d'Église, en cette belle fête de la Pentecôte, manifeste l'action de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et dans l'Écriture, déjà il était dit, dans les psaumes, « Emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. » Et c'est bien ce qui est arrivé. Par l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, marqués par ces langues de feu qui signifiaient à la fois la lumière de la foi et le feu de la charité, le monde a été recréé, le monde a été transformé. Les apôtres eux-mêmes ont été transformés, les premiers. Peu de temps encore avant la Pentecôte, se trouvant avec notre Seigneur, avant son ascension, ils étaient préoccupés par des soucis terrestres, souhaitant que notre Seigneur rétablisse le royaume d'Israël ici-bas. En définitive, ils n'avaient pas compris. Ils étaient encore aveugles. Ils étaient encore dominés par les suites du péché originel. L'Esprit Saint ne les avait pas encore éclairés. Mais dès qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, alors ils ont compris. Et il suffit d'entendre les discours de Saint Pierre après la Pentecôte pour comprendre que désormais pour eux, il n'y a plus qu'un nom qui subsiste dans leur esprit, dans leur cœur, dans le passé, dans l'avenir, Jésus. Ils prêchent Jésus-Christ. Ils sont attachés à Jésus-Christ désormais, à la vie, à la mort. Quoi qu'il arrive, désormais, on ne les empêchera plus de prêcher notre Seigneur. Emprisonnés, persécutés immédiatement par les scribes et les pharisiens, parce qu'ils prêchent le nom de Jésus. Car c'est bien cela que leur disent les scribes et les pharisiens, ne prêchez plus au nom de Jésus. Et les apôtres répondent, non possumus non loqui, nous ne pouvons pas ne pas parler. Et dès qu'ils sont libres, ils recommencent à parler, à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, car c'est Saint Pierre qui le dit aussi, il n'y a qu'un nom par lequel le salut peut être donné ici-bas, c'est le nom de Jésus. Et toute leur vie et toute l'histoire des premiers siècles ne sera que la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ et la persécution. Le monde se révoltera, Satan suscitera des persécutions horribles contre les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils aiment notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils professent la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils veulent que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Et toute l'histoire de l'Église, depuis les apôtres, est semblable à celle des premiers siècles. Sans doute, il y a eu des siècles de paix, des siècles où vraiment notre Seigneur Jésus-Christ a régné au moins sur une grande partie du monde. Des États étaient chrétiens, les princes étaient chrétiens, les institutions étaient chrétiennes, et l'Église, au cours de ces siècles, a pu manifester sa foi en notre Seigneur Jésus-Christ, a pu poursuivre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ comme ce règne aurait dû commencer, persévérer pendant toute l'histoire de l'humanité. Car Jésus est le roi, Jésus est le créateur de cette humanité, Jésus est le créateur du monde, Jésus est le sauveur du monde. Et tous les hommes auraient dû s'incliner devant notre Seigneur, respecter sa volonté, le prier, chanter ses louanges, s'unir à lui, recevoir son corps, son sang, recevoir sa vie, vivre de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vie a été celle des siècles de chrétienté. Mais hélas, ces siècles n'ont pas pu continuer au cours de cette histoire de l'humanité. Et voici que le démon, suscitant à nouveau des prophètes d'erreur, a bouleversé le règne de notre Seigneur. Et aujourd'hui, on peut bien le dire, ce sont les principes de Satan qui règnent. Ce sont les principes du monde qui dirigent le monde, et non plus les principes de la chrétienté, les principes de notre Seigneur Jésus-Christ, le décalogue, le sermon sur la montagne. Ce n'est plus vraiment l'amour de Dieu qui est dans le cœur des hommes, mais c'est l'amour du monde, l'amour des choses ici-bas. Et alors, le monde est de nouveau dans la confusion, dans l'aveuglement, dans l'erreur. Nous devons, dans ces circonstances, retrouver la foi des apôtres, retrouver les principes qui ont dirigé les apôtres après qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint, car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous avons eu notre Pentecôte. Nous avons eu notre Pentecôte au jour de notre baptême. Nous avons eu notre Pentecôte au jour de notre confirmation. Nous avons notre Pentecôte chaque fois que nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Et vous, mes chers amis, vous avez eu votre Pentecôte hier, vous qui avez été fait sous-diacre, diacre, sur le chemin du sacerdoce. Et tous les sacrements nous donnent l'Esprit Saint, est une effusion de l'Esprit Saint en nous. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de dire que les apôtres, eux, ont eu la joie et l'avantage d'avoir cette effusion du Saint-Esprit en eux, mais nous, nous ne l'avons pas eu. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous n'avons pas le droit d'échapper à cette influence. Et nous devons la recevoir telle que les apôtres l'ont reçue. Et ne pas mettre d'obstacle à cette Pentecôte en nous. Et c'est parce qu'il y a trop d'obstacles en nous que l'Esprit Saint ne peut pas manifester toute son action dans nos âmes. Si nous avions les dispositions des apôtres unis à la très sainte Vierge Marie, eh bien, les effets des dons du Saint-Esprit seraient plus grands en nous et plus grands autour de nous. Et quels sont ces effets particuliers? Le premier effet du Saint-Esprit et les dons les plus élevés du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, la science, c'est de chanter Dieu, de chanter notre Seigneur Jésus-Christ, de chanter sa gloire, de chanter sa création, de chanter sa charité, son amour pour nous. Il a donné son sang, il a donné sa vie pour nous. Comment ne chanterions-nous pas des actions de grâce incessantes, comme le dit si bien saint Paul? Quoi que vous fassiez, chantez la gloire de mon Dieu. chanter des hymnes et des cantiques. C'est bien ce que dit saint Paul. Ça, c'est la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne s'est manifestée au cours des siècles. Oui, les églises et nos cathédrales ont retenti du chant des psaumes, du chant de tous ces cantiques qui manifestaient la gloire du bon Dieu et qui manifestaient l'action de grâce qui se trouvait dans les cœurs. Alors nous devons aussi avoir ces sentiments en nous, chanter la gloire du bon Dieu. Mais il ne suffit pas de chanter la gloire du bon Dieu pour pouvoir la chanter réellement et de manière qu'elle soit agréable à Dieu. Nous devons aussi faire pénitence. Nous devons précisément chasser de nos cœurs, de nos âmes, tout ce qui est un obstacle à cet amour du bon Dieu, à cette prière de Dieu, à cette louange de Dieu. Et il y en a des obstacles en nous, hélas, toutes les suites du péché originel. Alors nous devons faire pénitence, c'est la Vierge Marie qui nous l'a dit aussi, elle l'a dit encore à Lourdes, et par conséquent c'est encore vrai de notre temps. Priez et faites pénitence, oui. C'est vraiment la vie chrétienne, c'est le résumé de la vie chrétienne. Mais encore, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de faire pénitence, il faut accomplir la volonté du bon Dieu. Si vous m'aimez, dit Dieu, dit notre Seigneur, observez mes commandements. Si diligitis me, mandatam mea servate. Il faut observer les commandements de Dieu. Et c'est peut-être la chose la plus difficile. Prier est relativement aisé. Faire pénitence à l'occasion est encore une chose peut-être relativement facile. Mais faire tous les jours, à tout instant de notre vie, la volonté du bon Dieu. Qu'il n'y ait pas dans notre vie de moments qui ne soient pas à Dieu, qui ne soient pas accomplis selon la volonté de Dieu, ça est beaucoup plus difficile. Et c'est pourtant la vie chrétienne. Si nous voulons vraiment donner notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos intelligences, il faut le prouver. C'est ce que dit notre Seigneur. Si vous m'aimez, prouvez-le en observant mes commandements. Et alors nous devons donner cette preuve d'amour à notre Seigneur. Nous pouvons penser réellement qu'au cours des siècles, il y a eu des millions et des millions de bonnes familles chrétiennes, dans le silence, dans la discrétion, dans l'oubli, dans la méconnaissance de ceux peut-être qui entouraient ces familles. Ces familles ont accompli leur devoir, dans la prière, dans l'union à Dieu, dans l'amour, dans la charité, dans la foi. Et c'est de ces familles que sont sorties tant et tant et tant de vocations. Tant de vocations de prêtres, tant de vocations de religieux et de religieuses qui ont peuplé les couvents, les monastères, les œuvres de charité, les institutions de charité, qui ont couvert le monde chrétien. Toutes ces vocations sont sorties de familles profondément chrétiennes, qui ont imité la famille, la première famille chrétienne, la famille de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. On n'a pas entendu beaucoup parler de la vie de famille de la très Sainte Vierge et de Saint Joseph. Et cependant, elle a duré 30 ans, bien plus que la vie publique de notre Seigneur. Ils ont accompli la volonté du bon Dieu. Et ainsi, ils ont été choisis pour participer aussi à la gloire de notre Seigneur. En cette période que nous vivons, où l'esprit du monde domine et tend à dominer toutes les familles et pénètre à l'intérieur de l'Église, pénètre à l'intérieur des séminaires, pénètre à l'intérieur de tous les couvents, de tous les monastères, de toutes les écoles catholiques, de tout le monde chrétien, détruisant ainsi peu à peu la chrétienté, les institutions chrétiennes, tout ce que l'Église a fait, tout ce que le Saint-Esprit avait réalisé par l'Église, tout cela est investi, tout cela est envahi, tout cela est soumis à des influences mauvaises du démon. Il faut retrouver les principes de la chrétienté. Il faut revivre ces principes. Simples, qu'ils ne sont pas difficiles. Prière, pénitence, accomplissement de la volonté du bon Dieu, dans l'union à notre Seigneur, dans l'union au corps mystique de notre Seigneur, avec toutes les âmes qui se donnent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et éviter l'influence des faux principes de ce monde qui se répandent partout. Le démon a inventé des principes ambigus. Et lui aussi, il sait qu'il ne faut pas trop compliquer les principes à donner pour tromper le monde, pour tromper les esprits. Alors il se sert lui aussi de formules simples, liberté, égalité, fraternité, formules ambiguës qui trompent le monde. Ces principes, il a remplacé le décalogue par les droits de l'homme. Voilà des formules simples, mais trompeuses, fallacieuses, qui sont faites pour contrecarrer le décalogue, pour détruire le décalogue, pour détruire l'autorité de Dieu, pour détruire les familles. Et puis il a encore inventé ces derniers temps, en plus de ces droits de l'homme, la dignité humaine. Alors au nom de la dignité humaine, on laisse la responsabilité à la conscience, chacun fait ce qu'il veut, sous prétexte de dignité humaine. Sous prétexte que les hommes sont adultes, que maintenant, à notre époque, tout le monde est adulte, alors qu'autrefois, on était encore dans un état d'enfance. Or, nous devons toujours nous rappeler ces principes. Il n'y a pas de droit de l'homme, il y a le décalogue, c'est-à-dire les commandements de Dieu. La soumission à l'autorité de Dieu et à notre soumission à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de dignité humaine, il y a la dignité chrétienne. Il n'y a pas de dignité humaine, ça n'existe pas. Il n'y a de dignité que chrétienne. Dans la mesure où nous avons une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dignes. Dans la mesure où nous n'avons pas de relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas dignes. La meilleure preuve, c'est que ceux qui ne seront pas attachés à notre Seigneur dans le corps mystique, dans son corps mystique, n'iront pas au ciel, iront en enfer. Seuls iront au ciel ceux qui seront unis au corps mystique de notre Seigneur. C'est notre Seigneur lui-même qui l'a dit. Je suis la vigne, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui n'est pas rattaché à moi sera jeté au feu. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Personne ne va à mon Père sans passer par moi. C'est notre Seigneur qui l'a dit. Bon, c'est pas un pape, c'est pas l'Église, c'est pas les évêques. C'est la doctrine même de l'Église. Alors il n'y a pas de dignité humaine. C'est une dignité inventée par le diable. Il n'y a que la dignité chrétienne. Et puisque tous les hommes sont encore susceptibles de devenir chrétiens, si le bon Dieu le permet, par des circonstances particulières, par des missionnaires, par une conversion, par une grâce particulière, alors nous devons respecter ces personnes et prier pour elles afin qu'un jour elles deviennent chrétiennes. Mais s'il était vrai qu'il y avait une dignité humaine, alors les démons seraient également dignes. Parce qu'ils ont encore l'essence angélique, ils ont l'essence humaine, donc ils seraient encore dignes. Et puis, troisième principe moderne, est celui de la liberté religieuse, où l'on met l'erreur et la vérité sur le même pied. Ça aussi est absolument contraire à l'Esprit Saint. L'Esprit est un esprit de vérité que nous recevons, et non pas l'esprit de l'erreur. L'erreur est opposée absolument à l'Esprit Saint. C'est pourquoi personne ne peut se sauver par l'erreur. Personne ne peut se sauver par une fausse religion. La fausse religion, c'est une religion erronée, une religion qui est dans l'erreur, qui est donc opposée à la vérité de l'Esprit Saint. Comment les âmes pourraient se sauver par l'erreur ? Elles ne peuvent pas se sauver par l'erreur. Elles ne peuvent se sauver que par la vérité. Or, ce sont des principes maintenant, ces principes des droits de l'homme, ces principes de la dignité humaine, ces principes de la liberté religieuse, où toutes les religions sont mises sur le même pied, il n'y a plus de fausses religions, tous ces gens sont des frères séparés, sont des frères. Tout cela est faux, ce sont des principes diaboliques, qui ne sont pas conformes à la vérité de l'Esprit Saint. Alors, nous ne devons pas les accepter, et nous devons les repousser. Et nous devons prêcher l'évangile véritable et non pas ce faux évangile de la Révolution, ce faux évangile du protestantisme et de ceux qui ont répandu les erreurs afin de tromper les âmes et de les entraîner en enfer. Voilà ce que nous devons prendre comme résolution, ne pas nous laisser influencer par ces principes qui sont actuellement diffus, même à l'intérieur de l'Église, et dont trop souvent, même les évêques, et dans les documents même romains, nous trouvons des allusions constantes à ces divers principes. Sans doute, on les corrige, on y met une certaine atténuation, mais le seul fait de les utiliser semble leur donner une certaine authenticité, une valeur véritable. C'est cela qui est dangereux, même si on les corrige. On ne peut pas se servir des principes qui ont été inventés par le diable et qui sont foncièrement faux. Nous demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint de nous donner cette lumière de la vérité qui doit toujours éclairer nos âmes. Demandons-lui de nous donner ses dons de sagesse, d'intelligence, de science, afin d'éclairer nos âmes et nos esprits, et de n'avoir dans nos cœurs que le désir de servir la vérité, de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons aussi à la très sainte Vierge Marie de nous aider à vivre comme elle a vécu, dans la prière, dans le renoncement, et dans l'accomplissement de la volonté du bon Dieu. Alors nous serons vraiment des enfants de Dieu.